Et moi-même, Luc Roland Brunard.
Bonsoir, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission Occupons les ondes, émission préparée par un collectif issu du mouvement Occupons Québec, et toujours heureux de vous offrir ce rendez-vous hebdomadaire à l'antenne de CKIA tous les mercredis de 17h à 18h. 17h tapant, nous sommes à l'heure de pointe. Un peu stressé et préoccupé par quelques soucis inutilement ressassés, fatigué de la routine qui cède à mêler un geste répété tel un automate. Peut-être êtes-vous encore au boulot, en pleine heure de rush, devant des clients de plus en plus impatients les uns que les autres, visiblement pris dans le tic-tac du temps qui court, ou encore sur le chemin du retour d'une longue journée au travail ou à l'école, pris dans le trafic, dans votre voiture ou dans un autobus bien bondé? Êtes-vous dans un café, un restaurant, chez des amis, ou encore à cuisiner à la maison? Simplement présent à l'écoute? Quel que soit votre instant présent, nous vous invitons d'abord à prendre 2-3 grandes respirations et, pour l'heure à venir, de vous laisser porter, distraire et, ou qui sait, absorber par le contenu un peu plus pertinent de cette quatrième émission d'Occupons les ondes qui portera sur le comment pourrait-on penser la ville autrement. Nous nous poserons la question, est-ce possible d'envisager un meilleur vivre ensemble par le biais d'un développement urbain innovateur et peut-être plus réfléchi? Maintenant, pour vous mettre en contexte, notre émission Occupons les zones s'est donnée pour mandat et fil conducteur, tout au long de la présente saison, d'observer, de questionner, d'approfondir différents sujets, dossiers, thématiques et enjeux qui, pour bon nombre de citoyens et citoyennes, suscitent l'indignation et qui invitent à la réflexion. Nous nous offrons ainsi un espace privilégié d'échange, d'écoute et de partage pour exprimer cette émotion poignante, l'indignation, ce sentiment connu de tous, qui souvent ponctuent nos conversations en réponse aux nouvelles du jour, plus accablantes les unes que les autres et qui, malheureusement, ajoutent du cynisme au regard que l'on porte sur la société en général. Maintenant, Luc, est-ce que tu peux...
L'indignation, comme tu dis, Julien, en fait, ça a donné son nom, son premier nom au mouvement planétaire Occupy, qui s'était inspiré du titre du livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Stéphane Hessel, vous vous souvenez qu'on a eu le grand honneur de recevoir la semaine dernière à notre émission, par entrevue téléphonique bien sûr, puisqu'il vit à Paris. Alors, l'indignation, est-ce que ça suffit comme sentiment? Bien, il semble que non, toujours selon M. Hessel, qui a récidivé très vite avec un second livre, Engagez-vous, qui est aussi une sorte de programme politique au sens large dans son tout dernier ouvrage rédigé avec Edgar Morin, Le chemin de l'espérance, que j'ai eu le bonheur de lire cette semaine et qui est vraiment extraordinaire.
Donc, indignation, engagement citoyen, mobilisation, militantisme, art engagé ou prise de parole en public, tous ces différents moyens d'affirmer ses valeurs et ses opinions pourraient-ils justement être des pistes de solutions pour dépasser cette mouvance sociale qu'est l'individualisme, l'égocentrisme et le désengagement du politique? Qu'est-ce que t'en penses, Luc?
Ben, j'en pense que c'est exactement ce qui nous a amené à produire cette émission, Occupons les ondes, pour suggérer à nos concitoyens de Québec des moyens concrets de changer le monde, rien de moins.
Enfin, pour en revenir à l'émission d'aujourd'hui, tu vas nous présenter un peu le contenu plus en détail?
Tout à fait, Julien. Alors, tout d'abord, Benjamin Clich va nous parler d'un sujet à la mode par les temps qui courent, les éco-quartiers. Et puis, nous allons recevoir M. Martin Petit, les chargés de projet à l'organisme Vivre en ville, et il va aborder pour nous la problématique de l'étalement urbain. De son côté, notre réalisatrice Marie-Hélène Demeul va se métamorphoser pour notre plus grand plaisir en chroniqueuse aujourd'hui pour nous parler d'un phénomène peu connu mais plutôt inquiétant, les communautés fermées, ce qui est une traduction d'une expression anglaise, gated communities, excusez mon accent, un concept qui donne froid dans le dos, si vous me permettez l'expression, alors elle va nous expliquer ça. Comme chaque semaine, on va clôturer avec ce qu'on pourrait appeler l'agenda des indignés, c'est-à-dire qu'on va porter à votre attention un certain nombre d'activités, tant ici au Québec qu'ailleurs sur la planète, liées de près ou de loin aux divers mouvements occupants et à des causes apparentées. Alors, pendant que Benjamin vient me rejoindre, on va écouter ensemble la chanson « Clarinettitis » de Berry Goodman. Thank you. Nous allons recevoir tout à l'heure donc un expert de l'urbanisme viable, de l'organisme Vivre en ville. Mais avant d'aborder avec lui la problématique de l'étalement urbain, l'équipe d'Occupons les ondes s'est intéressée au phénomène émergent des écoquartiers qui semblent si prometteurs. Et c'est Benjamin Cliche qui s'est attelé à une recherche sur le sujet. Bonsoir, Benjamin.
Bonsoir, Luc.
Alors, une première question toute simple, c'est quoi ça, un écoquartier?
Un écoquartier, c'est un terme quand même relativement à la mode là, ces jours-ci. Donc, un écoquartier, c'est un quartier urbain qui s'inscrit dans un objectif de développement durable et de réduction de l'empreinte écologique. Donc, c'est vraiment le développement urbain, mais dans une perspective de développement durable pour réduire l'empreinte écologique. Alors là, je me répète, qu'est-ce que c'est l'empreinte écologique? En réalité, l'empreinte écologique, c'est comme une manière statistique de mesurer l'ensemble des coûts environnementaux que l'individu porte durant une année. Donc, les coûts environnementaux, ça peut être, par exemple, les gaz à effet de serre, les déchets, la consommation, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment une manière de représenter le coût environnemental que chacun des individus porte. Et l'objectif de l'écoquartier, dans sa définition la plus simple, c'est de réduire cette empreinte-là.
OK. Alors, selon quel principe on arrive à un tel résultat?
Bien, voilà. Donc, les constructions de l'écoquartier pour réduire l'empreinte écologique, qui est trop élevée, soit dit en passant, en Amérique du Nord, là, on parle de 9,4 hectares pour un seul individu, alors qu'on parle d'une moyenne planétaire de 2,2 hectares.
Et, ouf! Donc
c'est ça. Alors, et d'une empreinte écologique disponible par habitant de 1,8 hectares. Là, on parle, tu sais, la fameuse phrase, si les gens vivaient avec le même mode de vie que les Nord-Américains, il faudrait 6 planètes. Ouais. Ça vient de cette chose-là, de l'empreinte écologique.
Donc, on peut pas continuer comme ça.
Et là, il y a plusieurs villes dans le monde qui vont construire des écoquartiers dans cette perspective-là de réduction de l'empreinte écologique. Alors, de quelle manière on peut faire ça? Bien, premièrement, ça relève de l'évidence, c'est la réduction de la consommation énergétique. Donc, la réduction du chauffage, la réduction des modes d'énergie sale, qu'on pourrait appeler. Donc, les écoquartiers sont beaucoup construits avec de l'énergie solaire. Donc, ça peut être de l'énergie solaire active, comme les panneaux solaires, ou l'énergie solaire passive, donc des chauffe-eau passifs, donc l'eau qui se fait chauffer uniquement par l'énergie solaire, sans nécessairement être obligé de dépenser de l'argent pour chauffer l'eau avec de l'électricité. Donc, réduction de la consommation énergétique, réduction également de la consommation d'eau, donc notamment par la récupération des eaux pluviales qui pourraient notamment permettre d'arroser les jardins autour de l'écoquartier, puis qui pourrait alimenter également les toilettes ou les trucs d'hygiène personnelle. Donc c'est ça, donc c'est un peu absurde d'une certaine manière que d'alimenter les toilettes avec de l'eau propre là. Donc avec de l'eau de pluie, on pourrait alimenter les toilettes de cette manière là donc c'est toute une il y a toute une pléthore d'idées finalement pour réduire l'empreinte écologique. Un autre élément essentiel des écoquartiers, c'est la gestion des déchets, hein, la gestion des matières résiduelles. On peut penser au compostage. Donc, c'est un chiffre qui m'a frappé, moi, il y a fort longtemps déjà, c'est d'apprendre que environ 45%, de 45 à 50% des déchets, du volume des déchets, sont des matières vertes, donc qui peuvent être compostées. Donc ça, au lieu d'envoyer ça à l'autre bout du monde dans un dépotoir, ben, les écoquartiers s'efforcent de créer un environnement où il y a le compostage à proximité. Et là, c'est vraiment une réduction des gaz à effet de serre, puisqu'on sait que le compostage, la biodégradation des matières vertes dans un système anaérobique crée beaucoup de méthane, qui est un gaz à effet de serre 21 fois plus puissant que le CO2. Donc, c'est toute une manière... C'est l'imagination humaine là, de créer des écoquartiers comme ça qui vont permettre de réduire l'empreinte écologique, qui vont permettre de réduire l'impact néfaste que l'humanité a sur l'environnement.
J'ai des manières assez simples hein, pour la plupart.
Moi,
tu évoquais tout à l'heure les fenêtres au soleil. Je te dirais bien simplement que chez moi, mes fenêtres sont plein sud. Et bon, c'est pas voulu, j'ai acheté ma maison, était comme ça, mais en plein hiver, à moins 20, l'après-midi, je ne chauffe pas, c'est le soleil qui s'en charge, donc c'est vraiment...
Donc c'est un des autres aspects des écoquartiers, c'est vraiment la construction qui cherche à maximiser l'éclairage, mm-hmm. Donc on parle de construction triangulaire, donc qui permet vraiment de maximiser l'exposition au soleil, on parle aussi de toits verts, donc qui permettent de minimiser l'impact de la chaleur dégagée par les toits, puis
Est-ce que les toits verts, ça s'applique à tous les climats chez nous? On peut faire ça ou bien c'est...
Ben oui, ben chez nous, c'est sûr que l'hiver, là, ce serait les toits hiver.
<C'est ça. rire>
Mais l'été, il y a quand même 5-6 mois d'été là, où que les toits verts, puis on peut même, à la limite, imaginer de l'agriculture urbaine sur les toits. Hein. Donc, c'est carottes qui poussent sur son propre toit, ça pourrait être intéressant. Donc, il y a plusieurs exemples de co-quartiers qui existent déjà. Il y en a à Londres, il y en a en Allemagne. En fait, il y a plusieurs centaines d'éco-quartiers qui sont sur les planches en Europe. Là. Donc, c'est vraiment une nouvelle manière de réfléchir la ville. C'est vraiment important, selon moi, en fait, ça démontre une conscientisation des individus et des entrepreneurs, finalement, pour construire une ville verte.
Ouais. Puis, je pense qu'il y a un autre principe important autour des éco-quartiers, c'est l'autosuffisance, la proximité des ressources. Hein, pour ne pas que le transport aussi des matières qu'on consomme fasse l'objet de... enfin, produise des effets de serre aussi.
Oui, effectivement, un des objectifs des éco-quartiers, c'est d'avoir une proximité des... généralement, les éco-quartiers sont réfléchis aussi avec des bureaux et des commerces, donc dans une logique de proximité, donc pour minimiser l'utilisation de la voiture, pour maximiser l'utilisation des vélos, donc on peut imaginer des pistes cyclables, on peut imaginer aussi un autobus qui va à la porte de l'éco-quartier finalement, donc on n'est pas obligé d'aller marcher 3 km pour aller jusqu'au transport en commun le plus proche. Donc c'est toutes des choses comme ça qui sont assez simples, mais qui finissent par changer réellement l'impact de l'humanité sur la planète. Et je pense que c'est au tournant des années 2000, là, on parle de 50% des gens vivent en ville, donc c'est extrêmement important de modifier notre vision de la construction urbaine par le biais des éco-quartiers et également, finalement, de marcher vers une éco-ville plus globalement, une ville qui minimise son impact sur l'environnement et qui est en harmonie avec les grands flux géothermiques.
Ben, merci beaucoup, Benjamin. Alors, merci. Écoute, c'est très instructif, une fois de plus, et on va se laisser bercer maintenant par Histoire sans parole d'Harmonium. organisme national d'intérêt public actif depuis 1995, Vivre en ville a pour mission l'amélioration de la qualité de l'environnement et des milieux de vie par l'application de principes du développement durable en urbanisme, l'aménagement du territoire et le bâtiment. Ces interventions touchent les transports, la qualité de vie des citoyens, la gestion des ressources et l'environnement. Christian Petit, et non Martin Petit, je m'excuse tout à l'heure pour mon lapsus, est chargé de projet chez Vivre en ville et nous l'avons invité pour qu'il partage avec nous son expertise en développement viable en milieu urbain. Alors bonsoir M. Petit.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Alors un des problèmes souvent mentionnés lorsqu'il est question de l'aménagement des villes est ce qu'on appelle l'étalement urbain. De quoi s'agit-il exactement et en quoi est-ce que c'est un problème?
Bien, l'étalement urbain, c'est le fait de développer nos villes de plus en plus loin. C'est un problème parce qu'on se retrouve à toujours empiéter de plus en plus sur des terres agricoles, sur des terres vierges, des forêts. Et ça a un coût. On a tendance à croire que non, mais il y a quand même un coût important à ça. Je vous dirais, c'est ça. Il y a aussi le fait que ça crée énormément de dépendance à l'automobile. Donc, la dépendance à l'automobile, c'est le fait que nos villes sont construites quand on fait de l'étalement urbain, de sorte qu'il n'est jamais possible, en fait, de se déplacer autrement qu'en automobile. J'entendais tout à l'heure Guillaume, c'est ça, qui parlait des écoquartiers. Et il mentionnait vers la fin que les écoquartiers tendent à faire en sorte qu'il y ait une meilleure mixité pour faire en sorte qu'on arrive à avoir une plus grande proximité avec les services et tout ça. Quand on fait de l'étalement urbain, quand on va en banlieue, on crée un milieu de vie où c'est pas possible de faire ça. La seule façon de se déplacer, c'est en automobile.
Alors, vous prenez votre revanche, Guillaume étant Benjamin.
Ah, ben, voilà.
Décidément, Benjamin. Aujourd'hui, on se débaptise mutuellement. Alors, vous savez que les Nord-Américains, pour beaucoup d'entre nous, on a un lien quasi affectif, des fois, avec nos automobiles. Et historiquement, on a tendance à justifier ça par nos fameux grands espaces, comme disent les Européens quand ils parlent de chez nous. Alors, est-ce que c'est pas un peu normal? Et puis, pourquoi on s'en prend tellement à l'auto, finalement?
Bien, en partant, je veux dire, on s'en prend, oui, effectivement, on s'en prend peut-être à l'automobile, mais c'est pas non plus pour dire qu'il faut la bannir, l'éliminer complètement. On est tout à fait conscient qu'elle est importante dans plusieurs cas, qu'il y a des gens que effectivement c'est vraiment efficace comme moyen de transport, mais en général, ça ne l'est pas. En moyenne, c'est un moyen de transport, c'est à peu près le moyen de transport le moins efficace qu'on a en ce moment. Si on pourrait y aller sur l'efficacité du transport avec l'essence, et puis après ça, combiner au fait que la plupart du temps, l'automobile, il y a une personne dedans. Si on combine, je connais plus les chiffres, mais si on combine tout ça, c'est de l'ordre d'une inefficacité de presque 99% à l'automobile. Donc, c'est vraiment pas si efficace. Et quand on crée des milieux de vie, oui, c'est vrai qu'on a de l'espace, mais on empiète énormément sur les terres agricoles en ce moment. Nos villes au Québec sont situées dans les milieux où il y a les terres les plus fertiles. Et c'est pas vrai qu'on a de l'espace pour faire de l'agriculture à tout vent au Québec. Si on parle de 3% du territoire qui est vraiment cultivable au Québec, et ça se trouve être autour des villes. Donc, si on empiète sur ces territoires-là, c'est moins de possibilités de faire de l'agriculture, de subvenir à nos besoins en alimentation. Puis, on recrée énormément de dépendance à l'étranger. En tout cas, il est souvent question de la souveraineté alimentaire, là, mais ça, c'est une autre question. Et c'est ça. Et l'automobile, au niveau personnel, au niveau social, est très coûteuse, dans le sens où quand on est complètement dépendant de l'automobile, j'en ai perdu le fil de mon histoire.
Vous disiez que l'automobile, sur le plan individuel aussi, ouais, non seulement collectif, mais individuel, coûte cher.
Oui, tout à fait. Quand on veut construire une ville, quand on se dit on va aller s'installer en banlieue, en fait, on a toujours tendance à regarder le prix des maisons puis à se dire, ben la maison en banlieue, elle est vraiment moins chère. Mais ce qu'on oublie de compter souvent, c'est tout ce que ça coûte en essence, en assurance, en immatriculation et tout ça. Et ce sont ces coûts-là sont souvent pas comptabilisés dans notre réflexion.
Tout à tout à fait. J'ai déjà entendu, je ne sais pas si le chiffre est bon, qu'en moyenne, une automobile, si on comptait l'entretien, l'essence, etc., c'était autour de 5 000 $ par année. Donc, si on ajoute ça à l'hypothèque, effectivement, peut-être que là, le rapport... Ouais,
en fait, c'est à Québec, je pense qu'ils disent 8 000 $.
8 000, bon, c'est ouais. Encore pire que...
Mais ça, c'est sûr que c'est évidemment basé sur une automobile neuve, louée probablement, mais...
Bon. Maintenant, moi, j'entends mes amis banlieusards me dire qu'ils ont fui le centre-ville.
On vous aime.
Tout à fait. Et souvent, le discours que j'entends, c'est qu'ils ont fui le centre-ville au moment où ils ont eu des enfants pour leur offrir une qualité de vie qu'ils ne pensaient pas pouvoir leur offrir en ville. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Bien, en fait, c'est surtout le fait que effectivement, il y a des gens pour qui c'est important. Ils veulent cette maison-là en banlieue. Mais il y a beaucoup de gens, puis on l'entend de plus en plus. Nous, force de se promener à travers le Québec puis d'en parler, on entend de plus en plus des gens qui le disent. On est sorti de la ville. Pas nécessairement parce que on voulait absolument cette maison-là, ce type de maison-là, ce type de milieu-là, ce type de vie-là, mais parce que c'est ce qui nous était accessible. Donc, en fait, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup une plus grande accessibilité à ces maisons-là, à ces espaces de vie-là, et les gens vont aller là pour ça. En ce moment, il y a un manque d'offres pour d'autres types d'habitations. Et c'est beaucoup ça qu'on dit. En fait, la question, c'est est-ce que le bungalow a le monopole, finalement, de la qualité de vie? Puis, à nos yeux, non. On est souvent en train de montrer les exemples de quartiers assez modèles qu'on trouve en Europe, particulièrement en Allemagne. Et ces quartiers-là offrent une densité beaucoup plus importante qu'on peut la retrouver dans nos quartiers de banlieue ici, mais en même temps, une qualité de vie exceptionnel. Il y a beaucoup plus de vie que ce qu'on peut retrouver dans une banlieue typique qu'on a chez nous ici. Là, la banlieue qu'on connaît ici, les espaces sont tous privatisés. Donc, dès qu'on sort de la maison, il n'y a comme pas vraiment d'espace pour aller socialiser avec les gens autour, alors que ces endroits-là on se retrouve à avoir une bien meilleure qualité de vie que ce qu'on retrouve la plupart du temps ici. C'est pas vrai que la densité des centres-villes est toujours nécessairement un équivalent d'une mauvaise qualité de vie.
Bien, donc si je comprends bien votre raisonnement, chez Vivre en ville, on considère qu'il vaudrait mieux cesser l'étalement urbain qui est considérable. Moi, ça m'a toujours frappé que... En montant en haut du Concorde, par exemple, ou de l'édifice Marie-Guyard, c'est à perte de vue, hein, l'étalement de la ville de Québec, alors que quand j'étais petit, aller au zoo, c'était un voyage à la campagne le dimanche. Donc, c'est une grande différence. Alors, on va voir, après la pause musicale, comment aborder le fait que, pour l'instant, les gens ont l'impression que vivre en ville n'est pas nécessairement facile ou agréable. On écoute d'abord I Will de Radiohead et on y revient.
I will.
Vous êtes toujours à l'émission Occupons les ondes, sur CKIA 88,3 FM et je m'entretiens avec mon invité de Vivre en ville, M. Christian Petit, de la question de l'étalement urbain. Et ce que je disais tout à l'heure avant la pause musicale, c'est que pour l'instant, on comprend que l'étalement urbain n'est pas une bonne solution, c'est même très dommageable à terme. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas pour tout de suite attrayant de revenir en ville. Alors comment faire en sorte que ça le devienne attrayant?
Ouais, en fait, j'aurais tendance à tourner la question plutôt à dire que en ce moment, il y a peut-être plus de gens qu'on pense qui aimeraient ça retourner en ville et qui n'en ont pas les moyens et qui trouvent pas la façon de d'être à l'aise avec le fait de retourner en ville parce que s'ils n'en ont pas les moyens, c'est souvent parce qu'on regarde encore quand même pour avoir une petite cour, avoir quelque chose comme ça. Et c'est difficile de trouver.
C'est très cher en ville. Plus on se rapproche du centre, plus c'est cher.
Exactement. Il n'y en a pas beaucoup et c'est cher. Mm-hmm. Ce qui arrive, c'est ça, c'est que dans le fond, il manque d'offres, de diversité, de types de logements en ville. En ce moment, il a commencé à y avoir une vague de création, de construction plus au centre-ville, un peu partout au Québec. C'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, un peu à travers le monde. Ce qui arrive, c'est que les constructeurs qui se lancent là-dedans, pour l'instant, s'en tiennent beaucoup aux condos. Mmh. Je pense que leur clientèle qui vise en ce moment, ce sont les baby boomers qui, pour plusieurs, veulent revenir en ville pour se rapprocher des services, justement, pour leurs vieux jours. Et c'est bien, mais ça offre pas ce dont ont besoin les familles. Et les familles retrouvent encore plus ce dont elles ont besoin en banlieue.
D'accord.
Donc, il faudrait probablement augmenter l'offre en ville de divers types d'habitations et ça aurait probablement pas pour conséquence, en quelque part, d'un peu diminuer les prix si on se fie un peu au concept de l'offre et de la demande. En ce moment, comme il n'y a pas beaucoup d'offres, dès qu'il y en a un petit peu, la demande étant grande, ça se trouve être vendu assez cher. Puis c'est un peu pour ça qu'il y a quelques-uns qui s'y lancent. C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller chercher vraiment une plus-value. Mais il faut vraiment développer chez les promoteurs immobiliers, il faut vraiment essayer de développer une plus grande tendance à construire de toutes sortes de types d'habitations en ville.
OK. Parce que c'est vrai que, bon, vous parliez des baby-boomers tout à l'heure. Peut-être que les gens qui sont un peu plus avancés dans leur programme de vie, si on peut dire ça comme ça, qui ont un peu plus de moyens aussi. Les enfants quittent la maison. Si on prend la retraite, on a moins de dépenses pour le travail, etc. Mais la famille moyenne considère encore que les logements qui leur conviendraient sont pas à leur portée en ce moment. Donc, c'est vraiment ça qu'il faudrait essayer de corriger. Là.
C'est un fait, effectivement. Mmh. Puis à cet égard-là, c'est pas une question qui est facile à traiter, dans le sens où je pense pas qu'il y ait de solution magique, mais il faut vraiment étudier la question de comment on peut offrir plus de diversité un peu partout. Puis ça peut aussi passer par, on parle des centres-villes beaucoup quand on parle de ça, mais il y a les premières couronnes qui, elles, se retrouvent à être souvent un peu délaissées parce que la migration, en fait, dans l'étalement urbain en ce moment, la migration, elle n'est pas seulement du centre-ville vers les banlieues, mais aussi des premières banlieues vers les deuxièmes.
Oui, quand on dit première banlieue, là, on parle de, par exemple, ici à Québec, Sillery, Sainte-Foy,
tout à fait.
Charlebourg, peut-être.
Tout à fait. En fait, j'aurais même tendance à dire que les toutes premières banlieues sont Montcalm et Limoilou.
Ah oui.
Si on se fie à l'histoire, en fait, ces quartiers-là sont nés du tramway au début du 20e siècle. Mm-hmm. Mais par la suite, là, ce qui est vraiment les banlieues nées de l'automobile, on parle de Sainte-Foy, on parle de Charlebourg. Puis ces banlieues-là se retrouvent souvent avec des bungalows qui ont vieilli, qui sont un peu moins attrayants. Étrangement, la taille des ménages, aujourd'hui, on construit des encore plus grandes maisons qu'avant, alors que les ménages ont tendance à diminuer. Mm-hmm. Mais donc, les maisons des banlieues ont tendance à être délaissées souvent. Et puis, il y aurait vraiment lieu de recréer quelque chose autour de ces banlieues-là, de retravailler un peu le tissu urbain pour essayer d'offrir une meilleure mixité, offrir une meilleure qualité de vie, puis d'essayer de construire là-dedans.
Donc, quand on dit qu'on essaie de contrôler, disons, ou limiter l'étalement urbain. On ne parle pas de raser les banlieues, de replanter des arbres. Là.
Non.
On se comprend bien.
Non, tout à fait. On est conscient que, écoutez, les banlieues existent, là, elles sont là. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que celles qui sont là soient le plus efficaces possible? Comment on peut les retravailler petit à petit pour les rendre plus intéressantes et plus efficaces? Parce que, en fait, quand on continue à s'étaler, on est dans un modèle où, on a fait un mémoire dernièrement dans le cadre du plan métropolitain d'aménagement et de développement de Montréal et de Québec, mais particulièrement à Montréal, où on a parlé un petit peu de la chaîne de Ponzi du développement en ce moment.
Qu'est-ce que c'est?
Le principe de la chaîne de Ponzi, en fait, c'est un principe où on repousse sur la personne suivante le fait de payer les frais actuel. Donc, dans le développement urbain, ce qui arrive, c'est que on crée des milieux de vie avec trop peu de densité, et ça fait en sorte que les infrastructures qu'on a en tant que société à offrir, que ce soit les égouts, les routes, les aqueducs et tout ça, coûtent excessivement cher par habitant, étant donné qu'elles couvrent un large territoire pour peu de gens.
D'accord.
Sur le coup, les municipalités vont chercher les taxes qui viennent avec les nouvelles maisons, mais assez rapidement, l'entretien de ces infrastructures-là devient plus coûteux que les taxes qu'on va y chercher. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rouvre un peu plus de territoire pour aller chercher un peu plus de taxes pour payer, mais à ce moment-là, on est en train de repousser le problème un peu plus loin parce qu'on recrée des infrastructures qui vont devoir être financées par la suite.
C'était comme problème. Ça,
c'était l'aspect du coût social, en fait, de l'étalement urbain.
D'accord.
Puis, si je peux me permettre aussi, quand on parle du coût individuel, les gens, j'en parlais un petit peu plus tôt, mais les gens ont souvent tendance à oublier, en fait, les coûts liés à l'automobile.
Tout à fait, qu'ils sont énormes.
C'est ça. Donc, quand on dit l'accès n'est pas facile pour vivre en ville, effectivement, quand on fait le premier regard, puis qu'on regarde le prix de la maison, on fait, mais je suis pas capable de me payer cette maison-là. Mais si on regarde sur un plus long terme, puis qu'on évalue les coûts qui sont liés au fait que, ben, habiter là, on n'a pas le choix d'avoir une automobile, peut-être même deux, ben, à ce moment-là, on peut se rendre compte qu'assez rapidement, souvent, on va en arriver à des coûts qui sont soit similaire, soit même moins cher en ville.
Et l'argent qu'on met sur la maison, c'est un investissement qu'on va éventuellement récupérer avec profit, tandis que l'argent qu'on met sur les autos, bien, au bout de quelques années, on doit en acheter une autre et c'est sans fin. On retrouve rien de ça.
Tout à fait.
Considérez-vous, chez Vivre en ville, que la ville de Québec est sur la bonne voie? Moi, je me souviens que dans les années 60, là, au risque de révéler mon âge, il y avait du béton, on a mis du béton mur à mur, on a même mis du béton sur la rivière Saint-Charles, sur René Lévesque, il y avait la rue Saint-Joseph qui était couverte, là, le fameux Maille Saint-Roch. Bon, je pense que M. Lallier et le Rassemblement populaire ont quand même revitalisé beaucoup d'endroits à Québec. Est-ce que c'est une voie intéressante chez Vivre en ville? Considérez-vous qu'il y a du progrès ou on est encore au point zéro?
Non, c'est sûr qu'il y a du progrès. Il y a beaucoup de choses qui se font qui sont relativement bien à Québec. Je dirais même, par exemple, les écoquartiers, c'est peut-être pas la panacée encore, mais il y a vraiment des beaux efforts qui se font à créer des milieux de vie plus intéressants. Effectivement, ce qui a été fait sur Saint-Joseph dernièrement, dans les dernières années, c'est très bien.
Il nous reste peu de temps,
oui.
Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre organisme très intéressant, oui. Vivre en ville.
Oui, bien, Vivre en ville, c'est ça. On fait beaucoup de choses un peu partout à travers le Québec. On est un organisme qui n'est pas juste... On est né à Québec, notre siège social est à Québec, mais on est un peu partout à travers le Québec. On œuvre un peu partout à travers le Québec. On a maintenant des bureaux à Montréal et à Québec, et à Gatineau aussi. Et on fait de la représentation, on va faire des mémoires, comme je disais. On fait aussi de la sensibilisation. Je vous invite tout le monde à aller voir le site sagacité.org qui, en fait, vous allez retrouver un petit film d'animation qui va faire une bonne explication, un bon topo de tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Puis c'est ça. Puis si vous allez voir le site web de Vivre en ville, qui est vivreenville.org, vous allez voir un peu tout l'ensemble de ce qu'on fait. Et c'est ça. Je sais pas.
L'invitation est lancée.
Oui, tout
alors,
à fait.
Je n'y manquerai pas. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous allez jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Donc, pour l'instant, on va écouter Hécatombe de Brassens.
Marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de votre oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, le gendarme mal inspiré part pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée. De la mansarde, je réside, j'excite les farouches bras des mégères gendarmicides, en criant hip 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 hourra. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles prend son corsage dilaté, m'attrape à grands coups de mamelle, ce qui passe à sa portée. Il tombe, 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 et sans les habits compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en oignons, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur n'en avait pas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur il n'en avait pas.
Donc, toujours sur CKIA 88,3 FM, vous écoutez l'émission Occupons les ondes. Maintenant, pour nous parler d'un sujet que je qualifierais plutôt d'étrange, ou à savoir les communautés fermées ou plutôt clôturées que Marie-Hélène va nous parler. Allô, Marie-Hélène?
Bonsoir.
Allô. Fait que qu'est-ce qu'on entend, en fait, là, par communauté clôturée?
En fait, il existe plusieurs types de communautés clôturées, aussi nommées en anglais gated communities ou communautés fermées. En fait, on ne s'entend pas sur les termes.
Sur les termes,
hein. On parle généralement d'un groupe de propriétés qui sont réunies en quartier ou en municipalité, mais dont l'accès est contrôlé. En effet, la plupart des communautés clôturées sont clôturées par un mur autour de l'ensemble du quartier et il y a un contrôle de l'accès, par exemple par des agents de sécurité à l'entrée de la communauté. Les communautés clôturées vont aussi privatiser les espaces qui sont traditionnellement publics dans les municipalités. Donc, par exemple, les piscines, les parcs, les routes, voire même, dans certains cas, les hôpitaux. Donc, en suivant le principe d'utilisateur-payeur, ils vont refuser l'accès à ces services à ceux qui ne sont pas membres de la communauté clôturée. Enfin, on parle dans les cas des communautés clôturées d'une forme de réglementation particulière à leur communauté. Donc, une réglementation qui va servir surtout à assurer la valeur de leur propriété. Par exemple, certaines communautés vont exiger que les propriétaires aient 55 ans ou plus pour assurer la tranquillité de leur quartier et ainsi augmenter la valeur de leur maison.
Fait que finalement, on contrôle au bout comme l'environnement, ou ça peut être pratiquement comme un peu un monde artificiel qu'on veut, comme un peu une maquette qu'on voudrait essayer de rendre un monde idéal. Je pense qu'il y a un film américain qui ressemble à ça, justement. Oui.
Certaines communautés clôturées là, dans cette volonté-là d'être dans un monde idéal, peut-être, vont même essayer de faire sécession avec le reste de la municipalité pour obtenir leurs propres pouvoirs municipaux et ne pas avoir à être en contact ou en lien dans la démocratie avec d'autres quartiers.
Fait que ça devient c'est ça, quelle motivation finalement les gens vont...
vont avoir pour s'établir dans ces, finalement, ces communautés-là? C'est qui la clientèle? Ces étranges-là qui vont se ramasser là?
Ben, en fait, les gens vivant en communauté clôturée cherchent surtout à épurer leur communauté de toute différence ou de toute insécurité. Okay. Elles sont extrêmement populaires aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, donc en Amérique latine, dans le Moyen-Orient, même en Chine. Les trois motifs principaux sont la volonté de se protéger contre toute criminalité, et c'est la raison pour laquelle ils érigent des murs autour de la communauté et contrôlent l'accès au sein de la communauté. Ensuite, il y a la volonté de vivre avec des gens ayant le même style de vie. Donc, les personnes âgées vont se réunir ensemble. Des fois, c'est un club de golfeurs, des gens qui aiment la nature.
Est-ce qu'on peut penser que c'est des gens qui ont plus d'argent aussi que
mais
les autres?
Mais c'est ça. Hein? Et enfin, c'est ça, il y a souvent des communautés fermées ou clôturées qui vont réunir des gens ayant le même statut socio-économique en excluant, par exemple, les pauvres.
Ouais, j'imagine, parce que ça, c'est un peu souvent pour se protéger, finalement, de ce qu'il pourrait y avoir comme problématique sociale.
Fait que, moi,
je trouve ça plutôt inquiétant parce que si les gens, hein, de plus en plus nantis, voudraient commencer à créer ce genre de communauté-là, où est-ce qu'on s'en va, en fait?
Il y a plusieurs motifs d'indignation contre ce genre de communauté clôturée. La plupart des partisans des communautés clôturées vont dire qu'elles contribuent à l'intérieur de ces murs à une cohésion sociale et à des valeurs communautaires en raison du sentiment d'appartenance ou de sécurité qu'elles favorisent. Mais ça, c'est pour à l'intérieur des communautés clôturées. Pour ce qui est, par exemple, de leur lien avec les communautés qui sont à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile. En fait, il y a plutôt une exclusion de la majorité de la population hors des murs de ces communautés fermées, pour des raisons socio-économiques, des raisons liées à l'âge, à l'origine ethnique ou même au style de vie. Donc, ce refus et cette exclusion de la population a plusieurs conséquences sur la démocratie. D'abord, ça favorise la perte du sentiment de lien avec des problématiques qui touchent l'ensemble de la population. Par exemple, les communautés clôturées vont avoir tendance à vouloir diminuer leur contribution financière à la municipalité.
Ce que j'allais me dire.
Hein, ouais, sous prétexte qu'elle offre déjà les services sous forme privée à ses concitoyens. Donc, comme ils ne veulent plus contribuer financièrement aux services municipaux qui sont déjà inclus dans les communautés fermées, c'est ensuite la municipalité qui a moins de budget pour ses installations. Sauf que comme c'est les riches qui se ramassent dans les communautés clôturées, évidemment, c'est ultimement les taxes foncières des propriétés les plus riches qui ne sont pas redistribuées à l'ensemble de la communauté. Il y a aussi une deuxième conséquence néfaste de ce genre de développement. En fait, ce genre de développement a tendance à favoriser les préjugés à l'égard de ceux qui vivent à l'extérieur des communautés fermées.
Ben, c'est ce que je pense, parce que si finalement ces gens-là vont, c'est pas un peu innocent qu'ils s'en vont, c'est pas innocemment qu'ils s'en vont dans ces communautés-là aussi.
Oui, mais il y a aussi le phénomène de si on reste dans la communauté fermée et on ne sauve plus aux gens qui sont à l'extérieur, ça favorise les préjugés et les stéréotypes, d'autant plus alimentés par les médias sensationnalistes. Donc c'est un deuxième type de problème qu'on peut voir dans ce genre de communauté-là.
Moi, c'est juste comme ça. Tu sais, ce qu'on a tendance à voir dans le coin de Montréal, moi je viens plus de Montréal, mais tu sais, dans les banlieues, là où que toutes les maisons sont pareilles, c'est un peu ça? Ça ressemble-tu à ça?
En général, on n'associe pas les communautés clôturées au simple phénomène banlieusard, même s'il y a des conséquences qui ressemblent un peu à ça. Puis en fait, il faut dire qu'il existe très peu de communautés clôturées au Canada. Il y en a dans l'Ouest canadien, mais il n'y en a pas au Québec, par exemple.
OK.
Donc, néanmoins, néanmoins, on a des exemples de développement immobilier québécois qui s'y apparentent. Puis, l'exemple le plus frappant, c'est celui de Ville-Mont-Royal à Montréal.
Ben, c'est drôle parce que je pensais, entre autres, à ce quartier-là de Montréal, parce que oui, vas-y.
Mais en fait, ce quartier-là a été développé par le CN en 1910, donc en partie pour financer le projet de chemin de fer.
Chemin de fer, oui, c'est ça.
Et puis, Ville-Mont-Royal, ça apparente étrangement à une communauté clôturée, notamment parce qu'elle est clôturée par des autoroutes et un chemin de fer qui est lui-même grillagé et qui a seulement certains points d'entrée et de sortie là, pour parc extension, par exemple, la communauté de parc extension. Et on a aussi un espèce de phénomène d'homogénéité du statut social qui s'y trouve. Donc, le revenu moyen par famille dans Ville-Mont-Royal, c'est de 140 000 $
C'est ça, hein?
Et contre 60 000 $ contre le reste de la ville de Montréal. Donc, on a vraiment
une grande disparité. Là, c'est même plus que le DOM. Puis, si on passe par ce quartier-là, je ne sais pas si pour les gens qui sont jamais allés dans ce coin-là, là, c'est vraiment des grosses cabanes.
Oui, c'est des gens qui ont.
C'est ça, qui sont friqués.
Puis, juste pour aussi dire une autre information sur Ville-Mont-Royal, c'est un des arrondissements qui s'est défusionné en 2006, donc du reste de la ville de Montréal, ce qui va de pair avec l'idée d'une perte de sentiment d'appartenance avec les autres quartiers ou groupes qui sont différents d'eux dans les communautés adjacentes. Donc, voilà.
Non, t'as encore un petit peu de temps, si tu veux.
Oui, en fait, je voulais juste donner le contre-exemple des communautés fermées. Donc, on pourrait avoir justement des politiques urbanistiques plus inclusives d'un point de vue démocratique. Donc, c'est toute la question, justement, de construire la ville autrement. Donc, est-ce qu'il est possible de construire la ville de façon à favoriser une démocratie inclusive, alerte aux différences, les acceptant, apprenant à vivre avec celles-ci sans s'emmurer contre ceux qu'on ne veut pas voir? Donc, je pense que le meilleur contre-exemple, c'est justement les coopératives d'habitation qui cherchent à favoriser la mixité sociale sans exclure des gens sous un quelconque prétexte.
Ouais. Ben écoute, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Bon, en tout cas, j'en apprends à travers ça. Puis maintenant, on va poursuivre rapidement en chanson avec L'Alouette en colère de Félix Leclerc.
J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples à finance où il ne peut entrer et par ceux des paroles où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours quelqu'un. Le gros voisin d'en face s'est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes, et lui casser les reins, et le dos, et la tête, et le bec, et les ailes, alouette, Mon fils est en prison, et moi je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère.
Donc, toujours sur l'émission Occupons les ondes, sur CKIA 88,3 FM. Maintenant, on passe à la section, à l'agenda de la semaine. On va vous proposer enfin des activités à Québec. Mais d'abord, on reçoit Simon qui va nous faire un peu un tour de ce qui se passe dans les Occupons à travers le monde.
Absolument. Travers le monde et au Canada. Donc, je ne peux que commencer en fait en parlant de la crise grecque, où une fois encore, on fait payer la population pour les fautes et les abus du système économique et politique mondial. Il y a les pressions du FMI et de l'Union européenne qui ont mené à une baisse du salaire minimum de 22%, à la privatisation de nombreuses entreprises d'État et à la mise à pied de milliers de fonctionnaires. Évidemment, il y a eu d'énormes mobilisations populaires, et il y en a encore, qui ont été, disons-le, ponctués par une violence policière inouïe. Je pense entre autres à ces policiers qui ont envoyé des gaz lacrymogènes à l'intérieur d'un dispensaire artisanal où des médecins s'étaient rassemblés pour soigner bénévolement les blessés. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles à l'international. Pensons aux États-Unis, où les occupations continuent de défendre les maisons menacées de saisie pour que les familles américaines puissent rester chez elles. C'est ce qui s'est passé entre autres à Nashville, où Occupy Nashville, en collaboration avec le site change.org, a réussi à sauver la maison d'une dame de 78 ans qui était menacée de saisie par JP Morgan Chase. Change.org, c'est un site de pétition en ligne qui permet de s'impliquer dans une foule de causes même si on n'a pas beaucoup de temps. Je vous invite donc fortement à le visiter et à vous impliquer. Maintenant, pour ce qui est à venir, il y a Occupy Windsor qui organise demain ce qu'on pourrait appeler une assemblée générale pan-canadienne téléphonique via Skype, dans le but de discuter de quelle manière les occupations du Canada pourraient montrer leur support à Occupy Chicago, qui, on se le rappelle, recevra le G8 du 15 au 22 mai. Pour plus de détails à propos de cette activité-là, en fait, à propos de la rencontre de demain, visitez le site web d'Occupons Québec, soit occuponsquebec.org sans accent, dans la section Forum, puis Occupons les ondes. J'y mettrai les liens pertinents.
Merci, merci Simon.
À toi Julien.
Oui, ben là je continue avec donc des activités plus près de chez nous, à Québec et à Montréal, puisque demain, vous rappelez que le jeudi donc 16 février, il y a la Coalition nationale opposée à la tarification et à la privatisation des services publics qui organise un grand rassemblement qui aura lieu donc, comme je le disais, à Montréal, tout près du Square Victoria, et qui débutera dès 6h30 le matin par une action de désobéissance civile organisée et planifiée visant à bloquer l'accès du Centre du commerce mondial où sont situés le ministère des Finances et le Conseil du Trésor. Ensuite, vers les 8-10 heures du matin, toujours, suivra la manifestation qui a pour terme « Notre richesse égale vos profits, ça suffit ». Bon, on peut penser au « Ya basta » qu'on connaît des zapatistes du Mexique on reprend ici là, le ça suffit de ce groupement révolutionnaire qu'on connaît si bien. Donc ça a pour but aussi de dénoncer, de dire haut et fort ben non aux hausses. Hein, c'est un slogan qu'on va retrouver beaucoup dans ces manifestations, ainsi que ils sont là pour revendiquer cette marche-là est là pour revendiquer le retrait de la taxe santé de 200$ par personne par année qui en fait nous attend, et le retrait aussi de la hausse annoncée des frais de scolarité. Hein, on sait que les étudiants donc prennent la rue maintenant, et enfin le retrait de la hausse annoncée par les tarifs des tarifs d'électricité. Donc, pour plus d'informations, on peut se rendre à l'adresse courriel www.nonauxhausses, au pluriel, bien sûr, .org. Ensuite, le samedi 19 février, toujours à Montréal, encore dans ce centre-ville qui va s'échauder pour les prochains temps, à 12h45, une marche théâtrale, cette fois-ci, débutera devant les bureaux de notre Jean Charest national, au coin des rues Sherbrooke et McGill. Il y aura enfin un rendez-vous final avec Atelier à 14h30 à la fonderie Darling, au 745 rue Ottawa. Pour vous dire que cet événement est le fruit aussi d'une collaboration entre les membres du mouvement Occupons Montréal et de la mouvance des forums sociaux au Québec. À l'annonce, on ajoutait aussi que c'est une nouvelle manière de faire entendre notre voix et de crier haut et fort qu'un autre monde est possible, qu'un autre Québec est possible. Nous sommes le 99%. Libérons la démocratie. Finalement, le mardi 21 février, ici à Québec, il y aura une séance d'information sur le plan Nord et l'activité minière, suivie d'une discussion. C'est organisé par le CRAC, par CRAC Bitume, ancien collectif et éco-quartier, en fait. Au 798 12e rue à Limoilou, c'est à 19h PM. Les conférenciers invités seront Martine Ouellette, député de Vachon, et Christian Simard, directeur général de Nature Québec. Vous rappelez aussi que sur réseauforum.org, en fait, on mettra pas l'accent sur le réseau, vous pouvez vraiment trouver une somme de conférences, d'événements qui parlent de démocratie en action. Démocratie, c'est ce que j'entends comme de démocratie citoyenne, hein, d'action citoyenne. Donc, vraiment intéressant d'aller sur ce calendrier, ce site-là qui nous offre un calendrier de toutes sortes d'activités à Québec. Maintenant, je prends un petit temps pour revenir sur cette quatrième émission, donc de Occupons les ondes, qui nous aura permis, encore une fois, de circonscrire certaines problématiques propres à la ville, hein, puisque c'était notre sujet. La ville, d'abord, comme productrice de déchets, à savoir déchets autant par le suremballage qu'on retrouve dans à peu près tous les articles qu'on peut acheter. Hein. En même temps aussi, il faut penser qu'il n'y a pas que les usines et tout ça qui polluent. C'est beaucoup à partir de nous, consommateurs, nous, citoyens, où on se trouve par notre activité, à créer beaucoup de déchets, tant aussi au niveau de l'alimentation et tout ça. Et donc, on nous proposait à la première chronique des solutions, et tout au long de l'émission avec Vivre en ville également, on invitait à s'améliorer en tant que citoyen. Maintenant, ben, je termine là-dessus en vous disant qu'il y a les filles... Les amis de filles, pardon, excusez-moi, qui va poursuivre après notre émission. Donc, toujours Occupons Québec, qui Occupons les ondes, qui suit mercredi prochain. Merci.
Dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les camion au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, et plus ça devient...